Salut à tous, vous êtes dans Service Action, le meilleur balado du jeu, le balado le plus intéressant du jeu. Aujourd'hui, c'est saison 1, épisode 5. Le thème, c'est les erreurs volontaires dans les preuves de concept et les outils offensifs. Aujourd'hui, on inverse les rôles. Je vais rien vous expliquer du tout. Je vais inverser les rôles et vous poser des questions à vous, les auditeurs. Bon, avant de commencer sur ce sujet, je vais juste définir trois mots de lexique que vous pourrez retrouver dans les notes, dans le billet de blog qui sera attaché dans la description, hein, peu importe la plateforme où vous êtes, vous retrouverez en description le lien vers les notes attachées. Donc, le lexique PDC, preuve de concept, c'est une production d'un code source permettant de prouver la présence ou l'exploitabilité d'une vulnérabilité dans un système informatique. IDC, indicateur de compromission. Ce sont des artefacts observés sur un système informatique indiquant une intrusion informatique avec un haut niveau de certitude. Piratin. Pirate amateur à la recherche d'une intrusion facile, souvent irresponsable et sans éthique, qui utilise des scripts déjà existants, disponibles gratuitement sur Internet, pour effectuer ses attaques malveillantes. Très bien, très bien. Vous allez voir, de toute façon, ça va venir naturellement, mais vous n'êtes pas là que pour la technique, vous êtes aussi là pour apprendre des mots de français incroyables. Donc, je vais tout de suite commencer avec l'exemple numéro 1, vous allez mieux comprendre de quoi je veux parler. Donc comme exemple numéro 1, on a Rubéus. Et du coup, comme erreur volontaire dans le code source de l'application, en fait, justement, on va parler de ces erreurs volontaires qui sont là exprès pour laisser des traces, pour laisser des indicateurs de compromission, pour que, en fait, les équipes défensives puissent détecter plus facilement les outils offensifs. Donc là, dans Rubéus, on a une erreur introduite dans le nom du processus de connexion. Donc il y a un certain nombre de personnes qui se posaient la question si c'était fait exprès, pas exprès, si c'était une erreur. Il y en a qui disent que c'était une erreur au départ, mais que quand ils s'en sont rendus compte, ils l'ont laissé exprès, parce que du coup c'était utile pour la détection, etc. Donc en fait dans le nom du processus au démarrage, en fait il est nommé User 32 Logon Process, mais process avec 3 S. Donc une petite erreur typographique probablement volontaire. Ce qui nous met sur la piste du fait qu'elle est volontaire, c'est que si on lit le code source dans la fonction LSA register logon process helper, on a la variable logon process name qui est égale du coup, comme je disais, à user 32 logon process avec 3 s, et on a un petit commentaire à côté qui est yes I know this is weird en français, oui je sais c'est bizarre avec bizarre entre guillemets. Avec un petit smiley clin d'œil. Donc probablement justement fait exprès. Et du coup, ça permet que ça soit visible du coup dans les journaux d'événements Windows, justement dans le nom du processus qui est remonté. Et en fait, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que par exemple, ça a été mis en avant par quelqu'un qui est dans la sécu, qui a trouvé ça lui-même en regardant le code source. Et du coup, qui a alerté sur Twitter en mode ah, regardez, machin, ce que j'ai trouvé, c'est fait exprès ou pas, machin. Ou est-ce que c'est une erreur? Et donc, qui a annoncé ça le 17 janvier 2024, à 16h06. Et a priori, L'auteur de l'outil devait suivre sur Twitter cette personne-là où on a eu vent assez rapidement parce que toujours le 17 janvier mais à 19h42 donc quelques heures après genre un peu plus de 3 heures après bah du coup il a fait un petit commit pour sur GitHub pour supprimer ce bout de code-là et le modifier. Et d'ailleurs, ça cons enfin le si on regarde le commit qui a été fait pour supprimer cet indicateur de compromission, et ben bah déjà c'est bizarre hein, que dans la durée, enfin dans le temps, ça a été supprimé que quelques heures après, mais dans le commentaire c'est remove the call to LSA register logon process as it was ultimately unnecessary. Donc en gros ils enlèvent la fonction qui était utilisée pour enregistrer un processus de démarrage et après c'est marqué en message complémentaire so long user 32 logon process IOC was hardly new Z. Bah, du coup, ça admet déjà que c'était un indicateur de compromission. Et après, comme si c'était difficilement connu ou utilisé. Alors, c'est marrant parce que je me suis amusé à recenser un peu tous les exemples. Bah, il y a cette personne sur Twitter, etc. Mais en fait, auparavant, par exemple, il y avait toute une étude de SpectreOps. Sur des vecteurs ADCS, etc. Et puis en petite note au milieu de tout le papier, ils mettent ça. Ah oui, en fait, note, on s'est rendu compte que dans Rubius, il y avait 3S, machin, etc. Et du coup, c'est dans pas mal d'outils de détection aussi. Parce que par exemple, dans Fortinet, ils ont une règle de détection pour qui utilise en fait effectivement le nom de process avec les 3S. Sur detection.fii, je sais pas comment on dit, FYI là. Pareil, ils ont une règle de détection aussi, un peu plus avancée, qui utilise plus de critères, mais qui utilise celui-là notamment. Dans les outils qu'avait fuité de FireEye, et ben il y avait une règle de détection snort. De ce truc-là. Donc en fait, même avant que ça soit peut-être dévoilé au grand public, il y a certainement beaucoup de grands acteurs comme ça ou d'États qui eux étaient au courant, enfin de ces indicateurs de compromission-là et qui avaient fait des règles privées là-dessus, etc. Peut-être. Et puis bah, par exemple, on voit ça aussi dans des défis de sécurité. C'est sur Security Break où pareil ils sensibilisaient les gens à ça et à créer une règle IRA pour utiliser le nom de process avec 3S, etc. Enfin bref, finalement ça a l'air d'être assez connu, assez documenté. En deuxième exemple, bah, on a quelque chose d'un peu similaire dans Mimikatz pour en fait le domaine de connexion qui est utilisé. En fait, enfin, grosso modo, je fais l'histoire courte. C'était quelque chose qui à un moment donné devenait obsolète, était plus utilisé. Plutôt que de le supprimer, bah, ils ont remplacé la valeur que t'es vraiment censé passer, le vrai domaine, par en fait. au début, c'était une chaîne genre EOOE Kiwi. Et après, ça a été changé quelques jours après par un emoji cœur EOOE et puis Annecy à côté avec un autre cœur inversé dans l'autre sens en gros pour aider justement l'Annecy et le cerf de l'Annecy et tous les gens qui peuvent être mis en relation avec eux à détecter l'utilisation de Mimikatz. Donc, bah, toutes les personnes qui compilent sans relire le code ou qui utilisent les binaires précompilés, bah, du coup, ils vont laisser des traces, quoi. Donc ça a été mis en avant sur Twitter et sur GitHub en 2015, en septembre-octobre 2015. Donc pareil, hein, dans les notes, j'ai le lien, il y a tous les liens que je vous dis à l'oral, puis les extraits de code et tout. A priori, c'était connu de l'ANSSI, etc. C'était surveillé. Dans les ressources spécialisées, par exemple sur AD Security, pareil, ils en parlent de ces indicateurs de compromission-là, etc. Donc pareil, ça a l'air d'être assez documenté. Et puis peut-être un truc, enfin, où on s'en rend compte plus facilement, c'est toutes les preuves de concept qui sont sur Exploit Database, EDB, qui sont du coup bah, des preuves de concept plus ou moins de mauvaise qualité, écrites plus ou moins à la va-vite. Avec par exemple en fait on bah, par exemple si c'est un script Python, on va l'exécuter comme ça un peu vite fait sans trop le lire ou en le lisant vite fait parce que de toute façon on se dit oui c'est un CTF, c'est une machine dans un lab, c'est pas un client donc pas trop grave de toute façon de pas s'assurer de ce qu'il y a dedans si ça crache ou si ça essaye de faire des trucs. Et puis bah souvent on se rend compte que ah, bah tiens ça marche pas parce qu'il y a une virgule en trop ou ça marche pas parce qu'il manque des guillemets ou des parenthèses. Ah, ça marche pas parce que en fait malgré le paramètre qui est censé prendre l'adresse IP, il y a quand même à un moment donné une chaîne de caractères avec une valeur codée en dur dedans, genre 127.0.0.1 ou je sais pas quoi. Ah ça marche pas parce que il y a un saut de ligne ou une indentation en trop, etc. Et on se dit oh mais quand même c'est bizarre, enfin. Que la personne elle s'est pas relue ou qu'elle n'a pas publié quelque chose qui fonctionne, qu'elle l'ait pas testé avant de le publier, puis peut-être chez Offensive Security, c'est pareil, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas testé, enfin bref. Mais en fait, bah, parce que probablement que finalement en fait c'est fait exprès pour que ça soit pas directement utilisable à l'emploi. Donc, vous avez déjà peut-être en tête un certain nombre de questions, mais moi j'en ai noté plein et je vais être assez exhaustif. Donc, sur toutes ces erreurs qui sont ouvertement volontaires ou qui ont l'air volontaires, la première question c'est, bon, admettons du coup qu'il y a justement, comme on en a parlé juste avant, qu'il y a des personnes qui écrivent des outils ou qui écrivent des preuves de concept de vulnérabilité et qui mettent volontairement des erreurs dedans. La première question, c'est est-ce qu'on doit le faire? Est-ce que doit-on placer ce genre d'indicateur de compromission dans les preuves de concept? Bah, du coup, pour lutter, enfin pour pouvoir détecter facilement les pirates. Hein. Donc, est-ce que c'est bien de le faire ou pas? Et puis, est-ce que c'est vraiment efficace? Parce qu'on n'a pas forcément trop de stats sur combien il y a de gens qui se font avoir avec ces trucs-là. Qui surveille réellement tous ces indicateurs-là? Parce qu'on peut faire la différence des fois aussi entre bah, justement tout ce que je disais quand c'est les erreurs de syntaxe, les virgules en trop, les trucs comme ça, où c'est vraiment tu le lances, le script il marche pas. Où là, ça va empêcher que le script marche, enfin fonctionne de base. Donc, il va falloir le corriger pour déjà pouvoir le faire marcher. Et là, tout ce qui était plus indicateur de compromission, où ça laisse des traces exprès, là, c'est plus pas pour empêcher d'utiliser, mais pour détecter. Et donc là, c'est pour obliger vraiment à comprendre ce qu'on fait, quoi. Et donc voilà, est-ce que c'est, enfin, parce que est-ce qu'il y a vraiment des gens qui surveillent ces indicateurs de compromission-là? Parce que là, le premier où je donnais avec Rubéus, bon, a priori, il y a plein de règles qui sont utilisées dans les solutions de sécurité et tout ça, mais peut-être qu'il y en a d'autres. En fait, bon, l'auteur, il a mis des règles de compromission exprès. Enfin, il a prévenu personne, mais personne le sait, personne l'a détecté. Enfin, donc. Déjà, est-ce que c'est efficace? Après, enfin, les questions qu'on se pose, c'est est-ce que les piratins, ils arrivent vraiment à utiliser ce genre d'outils? Parce que pour les preuves de concept sur ExploitDB, on peut se dire que oui, tu vois, dans un CTF, un challenge, un truc, un défi, pardon. Ok, mais par exemple, bah, je sais pas, Mimikatz, on est sur de la post-exploitation d'un un système Windows, etc. Donc ça veut dire qu'il faut déjà réussir à avoir compromis, à avoir des privilèges élevés sur des machines, etc. Donc ça veut dire qu'il faut quand même avoir les compétences d'avoir fait toutes les étapes préalables, etc. Donc en fait, est-ce qu'il y a vraiment des piratins qui utilisent Mimikatz, tu vois? Pareil, encore peut-être même encore pire pour Rubeus, c'est peut-être encore plus, un certain niveau qui est déjà, de juste utiliser l'outil de base sans quoi que ce soit, c'est déjà pas forcément accessible à des gens qui ont pas trop de compétences. Donc bon, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose du coup? Alors du coup, est-ce que ça ciblerait pas, pas les piratins, mais plutôt des utilisateurs avancés, mais qui auraient la flemme de relire le code source et pour détecter des cybercriminels qui seraient un peu flegmatiques? Parce que bon, ouais, mais quel genre à ce moment-là? Parce que si on prend des cybercriminels vraiment avancés, par exemple les menaces persistantes avancées. Bah, on sait qu'ils vont développer leurs propres outils, qu'ils vont relire les outils sur étagère ou en source ouverte qu'ils utilisent, qu'ils vont, s'ils les utilisent, ils vont certainement les modifier, déjà ne serait-ce qu'en premier lieu, pour pouvoir évader toutes les solutions de sécurité qui sont basées sur des signatures. Donc eux, ils vont pas se faire avoir non plus, parce qu'ils vont faire leurs propres trucs ou ils vont modifier, etc. Enfin, donc en fait, si c'est pas les débutants qui vont se faire avoir, ni les très avancés, en fait, c'est qui? Parce que finalement, peut-être que les intermédiaires, au final, c'est que des auditeurs et ceux-là, ils sont pas malveillants. Donc est-ce que ça a vraiment un intérêt de mettre des trucs pour qu'ils soient détectés, puisque de toute façon, déjà de base, ils cherchent pas à se cacher. Donc en fait, est-ce qu'il y a vraiment, si on se posait la question, est-ce qu'il y a vraiment un public cible? Ou est-ce que voilà, il y a des espèces de cybercriminels vraiment de niveau intermédiaire qui se font avoir, etc. Peut-être. Moi, je réponds pas aux questions, hein, je pose juste des questions. Là, je vous ai dit, on inverse les rôles. Donc. Après, il y a peut-être d'autres techniques de faire plutôt que de mettre des traces comme ça. Parce que est-ce que en fait, pour avoir des indicateurs de compromission pour la détection, si on parle de binaire précompilé, est-ce que finalement le haché du binaire, c'est pas déjà suffisant? Bon, après, c'est peut-être pas le plus performant. Non, je sais pas si le binaire est lourd ou j'en sais rien. Est-ce que, par exemple, dans tous les binaires, il y a toujours un mille, enfin, dans ces outils-là, il y a toujours 1 milliard de commentaires. Donc, après, qui peuvent potentiellement partir si le binaire est strip, entre guillemets, s'il est nettoyé. Après, il y a tout ce qui est chaîne de caractères aussi. Qui sont plus ou moins avec des messages uniques. D'ailleurs, on n'en a pas parlé de ce vecteur-là, mais dans les chaînes de caractères, ils mettent des fautes d'orthographe exprès pour que un message générique, en fait, il soit pas générique, il soit unique parce qu'il y a une faute d'orthographe dedans. Enfin, est-ce que c'est pas déjà suffisant en soi, enfin tous ces indicateurs de compromission-là, est-ce qu'il y a vraiment besoin de rajouter une typo ou de mettre une chaîne de caractères hyper spécifique en plus? Et après, du coup, si oui, si on est persuadé que c'est une bonne chose de placer ce genre d'indicateur de compromission, est-ce qu'on doit, comme c'était le cas du coup dans Rubeus, puisque par exemple dans Mimikatz, il n'y avait pas d'indice, mais dans Rubeus, il y avait un indice, le commentaire. Et donc quelqu'un qui relit le code source, en plus il va lire les commentaires en premier lieu, un commentaire comme ça va le faire tiquer. Parce que là, le triple S, franchement, quand on lit le truc comme ça, ça se voit pas quoi. Enfin, il y a vraiment, si on veut travailler spécifiquement sur cet aspect-là, qu'on va s'en rendre compte. Mais ou c'est pareil, une faute d'orthographe dans une chaîne de caractères, on va pas forcément s'en rendre compte en lisant. Alors que là, le commentaire, du coup, on s'en rend compte pour quelqu'un qui fait l'effort de lire. Donc est-ce que du coup il faut mettre, parce qu'à chaque fois on va être toujours dans la dualité entre plus c'est facile à s'en rendre compte, plus c'est facile pour les gens, les auditeurs ou toutes les personnes éthiques, etc. Mais où ça va être aussi plus facile pour les cybercriminels. Parce que est-ce que le fait que ça soit plus facile à détecter en lisant le code source, en mettant un commentaire, par exemple, est-ce que ça va vraiment aider les équipes défensives? Parce que, eux, ils vont déjà avoir des règles dans leurs outils de détection et tout ça, enfin, sans même le savoir, sans en être conscient. Bon, les auditeurs, ils s'en fichent un peu, même s'il y a des indicateurs comme ça dedans. Parce que, enfin, s'ils font pas de red team, enfin, ils cherchent pas forcément à être discrets, donc ils s'en fichent un peu d'être détectés par le SOC ou un outil. Bon, sauf après s'ils sont bloqués par des AV et qu'ils voudraient les contourner, mais à ce moment-là, on rentre dans un autre domaine. Est-ce que, bah, du coup, ouais, ça risque d'aider les cybercriminels, etc. Bon. Et maintenant, si on parle spécifiquement des binaires précompilés, parce que là, si cette fois-ci le but, si le but, par exemple, recherché, c'est pas que ça soit facilement détectable, mais que ça soit, par exemple, d'empêcher l'utilisation de certains outils par des piratins, bah à ce moment-là, en fait, juste fournir le code source est-ce que ça serait pas suffisant à repousser, à décourager les piratins? Parce que bon, t'as une base de code sans fichier d'explication et sans binaire précompilé en C#. Ça, même des gens qui sont pas débutants, des fois ça les rebute à utiliser l'outil, quoi. Parce qu'ils ont la flemme d'aller le compiler, machin, lancer une VM pour faire ça et tout, enfin bref. Mais ça encore, bah ça aide pas à la détection, ça aide juste à ce qu'on utilise l'outil, et quand bien même on n'aurait pas la flemme qu'on prend et qu'on le compile, ça prouve pas qu'on a lu ce qu'on a exécuté. Et ce qu'on a compilé, on peut très bien prendre le truc, faire compiler dans Visual Studio, et puis au final, on sait pas ce qu'on exécute quand même. Les indices de compromission des binaires précompilés, est-ce que par exemple on pourrait se dire, bah là par contre pour la détection cette fois-ci, bah à ce moment-là, en fait, je mets pas d'indices de compromission supplémentaires fait exprès comme ça dans mon code source. Donc les gens qui vont compiler depuis mon code source, bah eux ils n'auront pas ça, tous ceux qui font l'effort. Mais par contre dans mon binaire précompilé, comme de toute façon il y a dans 99,9% des cas ou même plus, il n'y a aucune corrélation et aucune preuve que les binaires précompilés qui sont déposés correspondent au code source, par exemple du dépôt GitHub par exemple qui est associé. Donc on peut très bien pré-compiler un code différent, un code où on a mis une porte dérobée, ou là en l'occurrence une porte, un code où on a mis un indicateur de compromission facile à détecter en plus. Et donc ceux qui utilisent le binaire pré-compilé, donc potentiellement bah, les piratins, etc. Bah eux ils vont se faire détecter facilement, et puis ceux de toute façon qui font l'effort de compiler eux-mêmes le code source, bah eux ne seront pas détectés. Donc ça peut être intéressant quand même. Après, en lisant sur des forums des trucs, à ce qui paraît qu'il y aurait des groupes soutenus par des États ou que du coup je peux pas me résoudre à appeler des attaquants persistants avancés, parce que enfin, s'ils étaient vraiment avancés, ils se feraient pas avoir. Mais en tout cas, des groupes de cybercriminels soutenus par des États qui utiliseraient des binaires précompilés, bah, a priori par exemple ceux de Mimikatz. Bon, est-ce que c'est vrai ou pas? Mais surtout, si c'est vrai, est-ce qu'ils font exprès ou pas? Parce que par exemple, si c'était des attaquants avancés, bah, ils pourraient très bien faire exprès d'utiliser des binaires précompilés où ils savent qu'il y a des signatures qui vont être détectées par les outils défensifs, par exemple pour simuler des attaquants non avancés. Parce que par exemple, dans tout ce qui est... Il y avait beaucoup, en fait, par exemple, d'attaquants avancés ou soutenus par des États qui envoyaient des logiciels de destruction qui étaient là en fait juste pour détruire des systèmes et qui maquillait sous forme de rançongiciel. Donc il faisait semblant de tout chiffrer et de demander une rançon pour qu'on croie que bon, c'est des cybercriminels un peu communs qui sont là juste pour se faire de l'argent, alors qu'en fait c'est des acteurs étatiques qui sont là pour détruire et ils maquillent ça. Donc là ça pourrait être pareil. Ça pourrait être du coup des attaquants avancés qui en fait utilisent des binaires précompilés pour se faire passer pour des cybercriminels un peu bidons et pour pas qu'on sache, enfin pour pas qu'on pense, on se dit ah bah s'ils se font avoir par ça, c'est que c'est bidon, c'est qu'ils sont pas c'est que s'il n'y a pas des agences à trois lettres qui sont derrière tout ça, etc. quoi. Donc ça pourrait être fait exprès. Ou pour faire des attaques sous faux drapeau pour utiliser justement des indices de compromission d'autres acteurs malveillants pour se faire passer pour eux. Etc. etc. D'ailleurs, bah, je vais rajouter en direct une question. Parce que je voyais qu'il y avait aussi des gens qui se posaient de la question que à partir du moment où l'indice de compromission il est trop connu, et bah justement après ça peut servir de, enfin ça peut générer des faux négatifs ou ça peut servir justement dans d'autres binaires on va mettre parce que si c'est juste parce que quand on fait des règles bateau en combinaison, en faisant pas des combinaisons ou des corrélations entre plusieurs vecteurs, plusieurs comportements et cet indice de compromission bien connu, et si on fait juste sur le nom du processus ou juste sur une chaîne de caractères, et bah après c'est facile de blinder dans plein d'autres binaires, de réutiliser ce même indicateur-là, bah pour faire croire que c'est un autre outil qui est utilisé alors que c'est pas celui-là, et un peu brouiller les pistes. Etc. Donc en fait c'est important de faire des règles de détection où on va être un petit peu plus spécifique ou corrélé avec des événements, etc. Puis après le risque aussi à l'inverse c'est que si on fait des événements trop corrélés, la moindre petite modification, après on a des faux négatifs, on détecte plus rien, etc. Enfin bref. Donc difficile en vrai d'écrire des bonnes règles de détection qui sont au bon niveau, qui ont le bon compromis. Puis pour finir, la dernière grande catégorie de questions, en fait, c'est que là, si on parle pas des preuves de concept, voilà, pour des vulnes comme ça à l'arrache, mais qu'on parle vraiment des outils, comme par exemple, bah, comme Mimikatz ou comme d'autres, est-ce que c'est vraiment pertinent, du coup, d'obliger, enfin, est-ce qu'il n'y a pas un moment, en fait, où on est obligé de toute façon de faire confiance à partir d'un certain moment? Et si oui, à partir de quel moment? Parce que, par exemple, pour un outil qui a une base de code, beaucoup de lignes de code, qui a une base de code très conséquente, bah, ça va être compliqué, ça va être difficile de passer du temps, énormément de temps, plusieurs jours, plusieurs semaines, à auditer l'ensemble du code source pour voir s'il n'y a pas des portes bérobées, pour voir s'il n'y a pas des comportements, même involontaires, qui pourraient être dangereux pour le SI du client, s'il n'y a pas des indicateurs de compromission qui feraient qu'on serait détecté hyper facilement, etc., etc. Donc, à part des gens qui vont faire de la rétine, mais qui vont peut-être tout réécrire d'eux-mêmes, etc., enfin, il n'y a peut-être pas beaucoup de gens qui peuvent se permettre ça, d'un point de vue temps, compétences, argent, etc. Enfin, au bout d'un moment, il y a quand même des contraintes économiques, il faut être rentable, donc on peut pas non plus passer son temps à tout relire, à faire des audits de code sur le moindre truc qu'on utilise. Donc là, je disais pour des bases de code très conséquentes, mais c'est pareil pour des outils qui évoluent hyper souvent, où il y a, je sais pas, 30 commits par jour. Bah, soit ça veut dire on reste dans une version figée qu'on a auditée une fois et on ne profite pas des mises à jour de l'outil. Soit ça veut dire que hyper fréquemment il va falloir constamment relire, faire un suivi des modifications et relire toutes les modifications qui ont été faites pour voir s'il n'y a pas des choses comme ça qui ont été introduites dedans, etc. Enfin, c'est un boulot à part entière, quoi. Et après, pareil, enfin, on sait bien que, enfin, il y a des clients où, vous savez, les clients qui font des appels d'offres où dedans ils demandent de donner la liste des outils, quoi. Comme si on utilisait 10 outils et qu'on allait donner la liste des 10 outils qu'on utilise pour faire tous les tests. Alors que foncièrement, sur des services, des protocoles réseau, enfin peu importe, des applications, des trucs, etc. Ben, en fait, on va utiliser un outil différent par limite par port ou par service réseau qui existe. On va utiliser 1 million d'outils différents en fonction des systèmes d'exploitation, des versions de noyaux qu'il y a dessus, en fonction des applications. Il y a quasiment un outil par application, ou par quadriciel, ou par langage de programmation, etc., etc. Enfin, c'est vraiment. Donc, en fait, enfin, quand on fait vraiment un peu l'état de tout ce qu'on utilise comme outil, en fait, on en utilise des centaines, et à part des outils comme Nmap, ou comme NetExec, ou comme Burpsuit. Qu'on va utiliser de manière un peu polyvalente dans beaucoup d'outils. En fait, après, tous les autres outils qu'on utilise, c'est quasiment du cas par cas. Donc, en fait, vu les centaines d'outils qu'on utilise, ou au moins les dizaines pour des gens qui ont peut-être moins d'expérience, vu la masse d'outils qu'on a à relire, on ne peut pas tous les relire, du coup. Enfin, c'est pas possible. Donc, il y a bien Et puis après, c'est pareil, il y a aussi une variété des langages de programmation. Donc au bout d'un moment, ça veut dire qu'il faudrait acquérir des compétences pour pouvoir détecter des portes dérobées ou des comportements ou des trucs comme ça dans du C, du C-Sharp, du Rust, du Go, du Ruby, du Python, du Perl, du. Enfin, au bout d'un moment, on peut pas être expert en tout, quoi. Enfin, donc. Et puis, si on se pose la question, honnêtement, vous avez déjà tous utilisé Nmap. Qui a déjà lu le code de Nmap? Personne. Personne ne fait ça. Donc, c'est facile de prendre un peu de haut les autres et dire, ah, t'as lancé un script, t'as lancé un outil et t'as même pas lu le code. T'es vraiment un script kiddie. Si tu t'es fait avoir, c'est bien fait pour toi. Enfin, t'es un piratin, pardon. Enfin, ou pareil pour NetExec ou SQL Map ou je sais pas. Enfin, en fait, personne le fait en vrai. Enfin, donc en fait, y a peut-être une limite, il y a peut-être un compromis de toute façon de confiance, pardon. Quand est-ce qu'on va relire le code qu'on exécute et quand est-ce qu'on va pas le relire? Et avant de passer sur ça, bah, il y a aussi toute la problématique des outils propriétaires. C'est que là, on parlait de relire le code avant de l'exécuter. Bah, oui, c'est bien, mais il y a un présupposé, il y a une hypothèse qu'on n'a pas dite avant de faire notre théorème. C'est que le présupposé, c'est que le code source, il est ouvert et qu'on peut le lire. Parce que quand on est sur du code source propriétaire, si je prends Nessus par exemple, bah, comment vous faites pour relire le code source? Bah, vous pouvez pas. Ou alors vous allez faire de la rétro ingénierie dessus pour connaître les comportements, les signatures qui pourrait y avoir dessus. Enfin, c'est pas possible. Là, c'est encore plus invraisemblable. Donc la dernière grande question, c'est du coup, bah, si on admet que oui, il y a des trucs qu'il va falloir relire, il y a des trucs qu'on ne peut pas relire, et bah, où on met le curseur de confiance? Est-ce qu'on se dit que, bah, par exemple, les preuves de concept, on va les relire systématiquement? Parce que, déjà, c'est faisable, parce que souvent, en fait, c'est tout le temps dans les mêmes langages, c'est souvent soit en C, soit en Python. Donc c'est des langages qu'on connaît, qu'on peut relire facilement. Souvent c'est court, donc ça va faire quelques dizaines de lignes, une centaine ou 200 lignes au maximum, donc on peut le relire rapidement. Souvent il y a un très faible niveau de confiance qui est accordé, c'est des auteurs totalement aléatoires, inconnus, enfin donc il y a pas a priori, il n'y a pas une confiance de base qu'on peut accorder. C'est publié à droite à gauche sans vérification. Souvent, au moment où on va vouloir utiliser ces preuves de concept-là, ça va être dans le feu de l'action. Ah, il y a telle vulne qui est sortie hier ou avant-hier. Vite, vite, c'est pas encore patché, c'est pas encore corrigé, il faut que j'exploite. Du coup, j'ai trouvé une preuve de concept sur GitHub, super, je l'exécute. Bah, ça vient juste de sortir, donc. Personne n'a forcément fait trop attention. Tout le monde est un peu dans l'euphorie de vouloir essayer le truc rapidement, être le premier, Même par exemple pour des gens qui font de la chasse aux bugs ou des trucs comme ça, ils veulent être le premier exploité, ainsi de suite. Et du coup, il y a aussi, bah ça c'est déjà vu dans les médias et tout, bah, des chercheurs en sécurité, des auditeurs et tout ça qui sont à voir par justement des logiciels malveillants ou des trucs comme ça qui sont fournis sous forme de, à chaque fois qu'il y a une grosse RCE Windows qui sort ou un gros truc comme ça. Y a, en fait, y a, et qu'il n'y a pas de preuves de concept qui sont sorties, bah, du coup, ils vont exploiter le fait que les gens ils veulent absolument un script d'exploitation et donc ils vont mettre des faux scripts d'exploitation qui en fait ont des portes dérobées dedans, des comportements malveillants, etc., bah, pour abuser de, bah, justement de la confiance de tous les gens qui vont prendre le script et l'exécuter sans relire ce qu'il y a dedans. Donc on peut peut-être potentiellement on peut se dire bon c'est peut-être déjà un bon truc de dire bon pour les preuves de concept, pour les scripts comme ça, on relit systématiquement, on fait pas confiance. Et c'est réaliste et c'est réalisable de le relire systématiquement. Ok? Mais après, pour les outils, là c'est plus compliqué. Parce que là on est sur beaucoup plus de lignes. Il y a beaucoup plus de variété de langage, enfin, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, on utilise beaucoup plus d'outils, ça va évoluer, ça va être mis à jour, machin, etc. Donc, très difficile. Donc là, il va falloir se dire qu'il y a quand même une grande partie des outils où on va pas auditer le code source de ce qu'on va exécuter. Donc, bon, bah, forcément, on va avoir plus facilement confiance en ce qui est en source ouverte, on va privilégier peut-être de compiler depuis les sources plutôt que d'utiliser binaire précompilé, comme je disais tout à l'heure. Après, on va peut-être faire au cas par cas, selon l'auteur. Quand c'est quelqu'un qu'on connaît, qu'on suit, qu'on sait qu'il travaille dans telle entreprise, enfin qu'il est éthique, etc., qu'on suit ses travaux, il sort un nouvel outil, on se dit bon, ok, je lui fais confiance, je peux l'utiliser sans relire, etc. Ou même sur son niveau d'expertise pour qu'il n'ait pas fait des trucs qui l'ait testé, que ça fasse pas planter le site du client et tout. Après, ça peut être aussi selon le niveau d'adoption. Bah, un outil qui a 4 étoiles sur GitHub, on va peut-être pas faire confiance, surtout si on connaît pas l'auteur, alors qu'un outil qui a peut-être 20 000 étoiles, enfin, personne n'a lu le code source de VS Code, par exemple, et tout le monde l'utilise. Donc peut-être qu'on fait confiance. D'ailleurs, est-ce qu'on devrait faire confiance à Microsoft? Et après, bah, sinon, selon les distributions de Linux qui empaquettent ces outils-là, donc si l'outil il est empaqueté dans Kali, non, je rigole, dans des vraies distributions, genre Black Arch Linux, est-ce que du coup on peut le faire confiance? Bah, alors bah, après, déjà ça pose des questions parce que pourquoi on y ferait confiance? Parce que vous partez du principe que les gens qui ont empaqueté les outils, ils sont allés relire le code source des outils qu'ils ont empaquetés et tout. Bah, moi je serais vous, j'en serais pas si sûr. Et je suis bien placé pour le savoir. Pour ceux qui ont la ref. Donc voilà, bon bref, on va pas s'étaler. Plus que ça, j'ai déjà posé maintes et une question. J'espère que tout ça, ça vous aura fait réfléchir. Et surtout, bah, si vous avez des réponses à ces questions-là, bah, n'hésitez pas d'essayer de me contacter sur LinkedIn ou sur Twitter ou sur ce que vous trouverez comme canal de communication. Et de me faire part de ces commentaires-là, ou sur la plateforme où vous écoutez ce magnifique balado, s'il y a possibilité de laisser des commentaires. Et ben, dites-moi ce que vous en pensez, et merci à tous pour votre écoute, et à bientôt, j'espère, pour un nouvel épisode. Ciao!